l'Africa. Bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver dans ce numéro de Mars Africain. Nous sommes le dimanche 15 septembre et nous parlerons exclusivement de compétition continentale des clubs et de bilan des éliminatoires de la CAN disputés en début de semaine. Avant de développer tous ces sujets avec nos différents amis un peu partout sur notre continent, un petit détour par l'information s'impose avec Mehdi Benellal. Sabah el khair Mehdi.
Hier nous sommes à Radio Mars. يحتفل المغرب اليوم باليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار الأثر المناخي وبرامج التأقلم. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن الأسرة الرصدية العربية والمديرية العامة للأرصاد الجوية تحتفلان باليوم العربي للأرصاد الجوية والذي يوافق 15 من كل سنة من شهر شتنبر، ذكرى تأسيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية والتي أقر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 15 من شتنبر سنة 1970. وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة اختارت شعار هذه السنة للتأكيد على أهمية فهم التأثيرات المتزايدة للتغيير المناخي على المنطقة العربية وأهمية تطوير برامج فعالة للتأقلم معه. نظم الهلال الأحمر المغربي أمس لقاء بمدينة مراكش خصص لتقديم حصيلة تدخلاته ومساهماته طيلة السنة التي تلت زلزال 8 من شتنبر، وكذا استراتيجيته المستقبلية لتخفيف الأطار الاجتماعية والإنسانية للفاجعة. وأضاف أن تدخلات الهلال الأحمر المغربي بدعم من الشركاء والسلطات المحلية شملت حوالي 26 ألف مستفيد، من بينهم 35% من النساء. نظمت شبكة التحالف الإفريقي للعدالة المناخية بالمغرب أمس ورشة تكوينية حول تمويل المناخ تهدف إلى مواكبة المجتمع المدني في الحوار المواطن حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة 29 الخاص بتغيير المناخ. بمدينة الناظور جرى أمس إطلاق مشروع انسجام الطفولة لدعم وحماية الأطفال اللاجئين والعابرين، ويهدف المشروع الذي تشرف جمعية الجيل الجديد لمواكبة الطفولة والشباب الناظور على تنفيذه بشراكة مع ولاية جهات الشرق ومجلس جهات الشرق وبتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، يهدف إلى خلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال اللاجئين والعابرين. نهاية الموجز، عودة إلى أمين بيروك مارس أفريكا، صباحكم سعيد.
موجز الأخبار.
Ravi de vous retrouver sur Mars Africa. Notre premier détour, notre première escale passera par Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et avec Michel Tobo, nous ferons un tour d'horizon de la participation des clubs de la RDC dans ces compétitions continentales, ainsi qu'un petit clin d'œil par rapport aux éliminatoires de la CAN. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci encore de me donner ce petit moment justement pour réagir par rapport à l'actualité sportive en République démocratique du Congo, actualité consacrée, voilà, excusez-moi, bien évidemment, aux compétitions africaines interclubs avec l'entrée en lice des quatre clubs congolais engagés dans cette compétition. On commence par la Coupe de la Confédération où l'AS Vecklub est allé s'incliner, malheureusement, on va le dire comme ça, en Afrique du Sud face à la formation de Stellenbosch, 2-0. Voilà, ça va être très compliqué pour l'AS Vecklub, voilà, qui était entraîné par un de vos compatriotes, voilà, Abdeslam Ouadou. Malheureusement, lui également, à l'issue de cette explication, a démissionné. Voilà, il a déclaré que voilà, les conditions n'étaient plus réunies, qu'il était un entraîneur professionnel et que voilà, il n'avait pas les moyens nécessaires. Ce qui est quand même étonnant, parce que on sait que Vecklub cette saison avec son président Amadou Diaby qui a ramené un sponsor turc qui est dans la construction ici en République démocratique du Congo. Mais bon, malheureusement, on apprend que l'entraîneur marocain, voilà, est impayé. Voilà, on n'a pas encore la confirmation, voilà, mais on apprend qu'il est impayé donc depuis quelques temps. Et il a déclaré clairement que voilà, il ne pouvait plus continuer à la tête de cette sélection. Il a déclaré Hier, à l'issue de la défaite de l'ASV Cup 2 buts à 0 en Afrique du Sud, on vous tiendra au courant, bien évidemment, de la suite de cette affaire, si oui ou non il est impayé ou bien voilà, il a fait ses déclarations, on va dire, sous pression. Donc avec club et dos au mur, ça risquait quand même d'être assez compliqué parce qu'il faudra marquer deux fois ici à Kinshasa sans pour autant en encaisser, pour tenter justement d'aller chercher même les tirs au but, voilà, pour tenter de se qualifier. On vient en Ligue de Champions, Mazembe également est allé s'imposer du côté de Ndola en Zambie devant la formation des Red Arrows, 2-0 également. Mazembe a fait parler son expérience tout simplement, donc les Corbeaux Louchois vont entamer le match au retour avec beaucoup de confiance, mais il faudra faire très attention aux Zambiens qui ont eu quelques situations en première mi-temps, donc le match pouvait basculer d'un côté comme dans l'autre, mais Mazembe a su justement faire parler son expérience pour l'emporter dans les 20 dernières minutes, où les deux buts sont arrivés à l'espace, on va dire même de 4 minutes, voilà, Mazembe a fait le break dans cette explication. Donc Mazembe va commencer le match retour avec beaucoup de confiance, donc on vous tiendra également informé par rapport à ça. Toujours en Ligue des Champions, la formation de Mané Maïno s'est imposée difficilement ici à Kinshasa face au Petro Atlético d'Angola, quart de finaliste de la saison dernière face à Mazembe, voilà, qui a été battu ici donc à Kinshasa sous le score de 2-1. Mané Maignan a mené dès la 14e minute de jeu. Les deux formations ont tenté plus ou moins de s'accrocher jusqu'à la fin de cette première période, et en deuxième mi-temps, vers la 70e minute de jeu, les Angolais ont réussi à égaliser, mais à la toute dernière minute de jeu, les Congolais ont réussi à reprendre l'avantage, justement. Donc, ils partiront à Luanda avec un but d'avance. Donc, voilà quoi. Mais c'est pas beaucoup. C'est très dangereux quand même, pour la formation de Mané Maïno, parce qu'on sait que le Petro Atlético, comme le tout-puissant Mazembe, ce sont des clubs très expérimentés. Donc, voilà. Ils feront en sorte, justement, de l'emporter avec leur expérience. Donc, Mané Maïno, avec ce but encaissé ici à Kinshasa, risquerait quand même, voilà, de se faire surprendre à Luanda dans une semaine. Mais bon, c'est le football, ça se joue sur le terrain. Ce n'est que la vérité du terrain qui nous dira assez davantage. On va revenir en Coupe de la Confédération, où un club congolais également sera en lice également. Ça sera ce dimanche également. C'est le FC Saint-Éloi Lupopo. Voilà. Lupopo qui se déplace du côté de l'Angola toujours, voilà, pour croiser la formation de Bravo et de Maki. Lupopo qui s'est préparé également sur le plan local, il n'y a pas eu trop de déplacements à l'extérieur, comme l'ensemble des clubs congolais d'ailleurs, qui participent à cette compétition africaine interclub. Donc le championnat congolais n'a pas encore repris. On nous a avancé une date, donc le 27, donc la semaine, dans deux semaines maximum, voilà, là où le championnat congolais va débuter. Donc les quatre clubs congolais ont joué tous ces premiers matchs, en tout cas, sans compétition réelle dans les jambes. Donc il faudra faire avec. Donc Lupopo également va tenter justement, voilà, de ramener un très bon résultat du côté de l'Angola pour justement tenter de venir, voilà, se qualifier à Lubumbashi, voilà. Le Popo va jouer à Lubumbashi, au stade Frédéric Kibasa Maliba, qui a été finalement homologué par la Confédération africaine de football pour au moins accueillir les matchs de premier tour, justement, premier et deuxième tour, justement, de compétition africaine interclub. Voilà, Amin Birouk, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport justement à cette actualité des compétitions africaines interclub en rapport avec les clubs congolais. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine certainement pour d'autres détails et évidemment les matchs retour de ces compétitions. Donc voilà, merci à vous et très bonne continuation. Salutations à l'ensemble des auditeurs qui nous auront suivis. Au revoir.
Merci beaucoup, Michel Taubeau, pour toutes ces explications. Nous serons bien évidemment ravis d'avoir la semaine prochaine d'autres informations venant de la République démocratique du Congo et de ces compétitions continentales. Nous allons en Côte d'Ivoire avec Elisabeth Gauly. Bonjour.
Oui, bonjour, confrère.
Alors, toujours ravi de t'avoir en notre compagnie. Elisabeth, aujourd'hui, c'est le grand soir pour les clubs ivoiriens, et en particulier pour le champion de Côte d'Ivoire qui va avoir à disputer une rencontre décisive contre le meilleur club soudanais, El Hilal.
Oui, effectivement. C'est tous les Ivoiriens et les observateurs du football ivoirien sont accrochés à cette rencontre-là. Tout le monde veut savoir ce que ça va donner. Mais on se dit que ça, c'est une rencontre qui promet parce que la Côte d'Ivoire avait, lors du premier match de la première journée, avait fait un 3 sur 3. Et là, d'abord, pour commencer le vendredi, le samedi, la Côte d'Ivoire, le Racing Club qui évolue en Coupe de la Confédération, a fait un match nul face à un match nul. Et là, l'équipe de San Pedro, l'équipe championne de Côte d'Ivoire, est très attendue. Et c'est une équipe, c'est vrai, certes, jeune, qui participe à sa première compétition africaine, est très, 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 très déterminée à aller de l'avant, à avancer. Ils se sont donné vraiment les moyens, tant au niveau infrastructurel qu'au niveau technique et autres, au niveau de l'encadrement technique. Vraiment, c'est des gens qui en veulent, qui veulent vraiment inscrire leur nom dans les annales du football continental. Et déjà, ils ont commencé au niveau local, parce qu'en à peine 5 années d'existence réelle, ils sont déjà en compétition africaine. Et le travail, ils ont misé le travail pour cette rencontre, ils ont misé le travail sur surtout sur l'attaque, qui est quand même l'un des maillons faibles de cette formation. Et ça promet vraiment, cette rencontre promet de chaudes empoignades. Parce que l'entraîneur n'a pas manqué de dire que lui, il va vraiment sans complexe. C'est vrai qu'il est à sa première compétition, mais il jouera sans complexe face à Al-Hilal.
On parle aussi de Coupe de la CAF, où il y a un duel entre frères siamois, puisque le représentant de la Côte d'Ivoire va aller disputer un match contre le Jav de Dakar. Et visiblement, ce sont des rencontres qui promettent énormément. Bon, vendredi, c'était le match aller 0-0. Le Racing d'Abidjan a raté peut-être le coche, mais il a encore un bon coup à tenter dimanche prochain à Dakar.
Oui, effectivement, ils ont encore un bon coup à tenter et ils ne sont pas déçus parce qu'ils se disent que si le Jaraf a pu faire un match nul, a pu concéder une rencontre 0-0, un match nul ici en Côte d'Ivoire, eux aussi ont les moyens, ils ont les capacités de pouvoir aussi renverser la vapeur à Dakar. Donc, ils ne s'estiment pas vaincus, peut-être qu'ils en diront dans le jargon populaire, ils ont perdu un combat, mais la bataille n'est pas encore perdue parce qu'ils ont encore, ils ont également des chances de gagner, de se qualifier. Donc, c'est pas peine perdue. Mais aussi, à côté des compétitions africaines, il faut dire aussi qu'il y a aujourd'hui une actualité en Côte d'Ivoire qui, depuis avant-hier, depuis le vendredi, secoue la Fédération ivoirienne de football. Il s'agit du problème ISCA et Africa Sport National, la montée de l'Africa Sport en première division face à l'ISCA qui avait été relégué suite à un match contesté. Et là, ISCA a été en justice et le tribunal arbitral du sport a...
Tribunal arbitral du sport, alors, c'est les aléas du direct. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'Elisabeth a reçu un coup de fil en même temps? Elisabeth? Elisabeth, on a été coupé, donc il va falloir reprendre le fil de la conversation avec Elisabeth Goli qui nous parlait de cette affaire qui secoue la Fédération ivoirienne de football et qui malheureusement donne une image un peu contestable, un peu, je dirais, mitigée de la gouvernance dans ce pays, amis et frères, en matière de football. Et l'Africa Sport est un géant du football ivoirien. Il végète à une place que son histoire ne mérite pas, que les grands joueurs que le club a donné ne méritent pas. Et évidemment, les fans de l'Africa Sport souhaiteraient le voir retrouver sa place. Alors on disait, Elisabeth, c'est une affaire qui secoue la Fédération ivoirienne de football.
Suite à la décision du tribunal arbitral du sport, demande la montée de DISCA et de voir le sort qui sera réservé à la Africa Sport National. Donc la fédération a eu une réunion d'urgence au cours de laquelle elle a décidé de reléguer l'Africa Sport en deuxième division et de faire monter ISCA, chose d'une décision que l'Africa aujourd'hui conteste parce qu'elle dit qu'elle n'a pas été consultée par la fédération, alors elle aussi promet de mener les actions nécessaires pour ne pas être la victime expiatoire de la décision de la fédération suite à la décision rendue par le tribunal arbitral du sport. Donc, ces jours, c'est plus que dans une semaine, le championnat de Côte d'Ivoire, le championnat de Ligue 1 va commencer. Donc, ce qui promet vraiment des jours vraiment difficiles pour la Fédération ivoirienne de football et pour la reprise même du championnat national de Ligue 1.
En revanche, en éliminatoire de la CAN, le tenant du titre tient son rôle et son rang après une victoire en déplacement au Tchad. Ça fait 6 points sur 6 pris pour l'équipe entraînée par Emer Sfaé.
Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire a tenu son rang en allant à bout de la formation de la sélection du Tchad. Une très belle rencontre, puis bon, de bons résultats, puisqu'au terme même des deux journées, la Côte d'Ivoire a fait 2-2. Ils ont 2 victoires et soldées par le même score 2-0. Mais le chapeau aujourd'hui, la Côte d'Ivoire tire son chapeau à Jean-Philippe Krasor, que tout le monde n'attendait pas, qui, au cours de ces deux rencontres, a inscrit 3 buts. 2 lors de la première journée face à la Zambie. La Zambie contre qui avait, du temps du sélectionneur Gassé, battu la Côte d'Ivoire à domicile sur le score de 3-0. Donc, chose que les Ivoiriens n'ont jamais digéré, se fait battre 3-0 par la Zambie. Alors, on se dit que justice a été faite, et surtout par Krasor, que personne n'attendait. Et le même Krasor qui a également inscrit un autre but face au Tchad. Donc, c'est vraiment une équipe rassurée et qui avance lentement, mais sûrement.
Alors, on voit que le football ivoirien se porte très bien. 2 clubs engagés en Champions League, un autre en Coupe de la CAF. Il y a de fortes chances de figurer dans les phases de groupe de ces deux compétitions. La sélection qui marche très bien. Et puis, il y a le petit grain de sable Elisabeth qui est ce problème de, qui émaille, cette tension qui émaille la fédération, avec, la présence en deuxième division et la contestation, concernant la présence de l'Africa Sport en deuxième division. Mais on en parlera la semaine prochaine et on verra dans quelle mesure le football ivoirien, au moins sur le terrain, va bien se comporter lors de ces compétitions continentales des clubs. Merci Elisabeth, à dimanche prochain. À très bientôt. Bonne journée. Okay. On va aller dans le Mali voisin. Inch'Allah. Oui Elisabeth.
Okay. Inch'Allah.
Inch'Allah, voilà. Merci beaucoup. Et on profite de l'occasion pour souhaiter un très prompt rétablissement à notre ami Blaise Bouimit qui est actuellement hospitalisé et à qui, bien évidemment, on souhaite toute l'énergie et tout le courage possible. Direction le Mali avec Rissa Nyono, bonjour.
Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous.
Alors on va commencer par le football malien. Le football malien, cette année, en compétition des clubs, n'est pas véritablement bien loti, même si Djoliba a gagné son premier match contre la SCO Karim, 2-0. Est-ce que c'est un résultat rassurant, prévision du match retour dimanche prochain?
Bon, en tout cas, les supporters, en tout cas, même les journalistes ont été divisés à l'issue de cette rencontre à domicile face à l'ASCO de Kara. En tout cas, le Djoliba est en passe est sur le chemin d'un challenge qu'aucune formation malienne n'est parvenue jusqu'à présent à franchir. Il s'agit d'accéder à la phase finale de la Ligue des Champions. De la CAF. En tout cas, hier, les Rouges se sont imposés 1-0, un but marqué sur penalty de Zoumana Sempa dès la 20e minute de jeu. Après cela, certes, ils ont eu des situations, mais malheureusement, ils n'ont pas été efficaces. Mais 1-0, c'est le score final et le match retour est prévu une semaine plus tard du côté du Togo, au stade Kégué. Mais en tout cas, le Djoliba n'a pas rassuré, selon plusieurs de ses supporters et ce résultat n'est pas du tout rassurant, même si il faut reconnaître, en tout cas, ils sont à la porte de l'histoire parce que c'est la 7e fois qu'ils arrivent à ce stade de la compétition, mais ils ne passent pas. Les 6 dernières fois, c'était en 99 contre le Raja de Casablanca, perdu au tir au but, 7-6 en 2000 contre l'Espérance de Tunis, en 2009 contre Jesco United, en 2010 contre le tout-puissant Mazembe, en 2012 contre Sanchez Stars et récemment, c'était en 2022 contre le CS Belouizdad. Et cette fois-ci, en 2024, est-ce que ce sera la bonne? C'est toutes les
Ça pourrait être la bonne.
Le monde se pose.
Et du côté de la Coupe de la Oui, tout à fait.
En tout cas, par ailleurs, en Coupe de la Confédération, le Stade Malien en déplacement, qu'on pensait être sur le papier favori, Mais en tout cas, le stade n'a pas respecté son rang. Défaite 1-0 hier du côté de Pinceville. Et le match retour est prévu le vendredi prochain ici à Bamako au stade 26 mars.
Bon, les surprises de cette défaite du stade malien. En revanche, ça va beaucoup mieux au niveau de la sélection. Quel bilan on peut faire des deux premiers matchs de Tom Saint-Flitte à la tête des Aigles du Mali?
En tout cas, cette première ère de Tom Saint-Flitte quand même porte un symbole. Il s'appelle Ibisouma. En tout cas, le milieu de terrain de Tottenham des Aigles du Mali n'avait plus retrouvé le chemin des filets en sélection. Depuis janvier 2017, c'était un match contre l'Ouganda. Mais cette fois-ci, avec le brassard du capitana, cette fois-ci qui risque d'être le nouveau problème au sein de cette formation. Ibisouma s'est montré, en tout cas, le leader technique qu'on attendait de lui. Un but pour enlever l'épine des pieds à ses coéquipiers, c'était le 6 septembre dernier au stade 26 mars, après l'ouverture du score du Mozambique, un score de parité. Mais 4 jours plus tard, ce sera lui qui donnera la victoire aux Aigles face à la formation de Swatini. En tout cas, 2 buts pour lui, 2 buts marqués par les Aigles, 4 points. C'est pas mal, mais en tout cas, cette ère Tom Saint-Flitte quand même porte le nom Ibisouma, en tout cas le joueur de Tottenham, a respecté son statut, en tout cas de leader technique au cours de ce rassemblement.
Merci infiniment Andriss Agnono, rendez-vous dimanche prochain pour continuer à analyser de plus près et de manière très profonde l'actualité du football malien. Il est 11h22, Bakary Cissé se trouve du côté de Riyad. Bonjour Bakary.
Bonjour Doyen, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Riyad où le soleil est au zénith.
Et on va profiter de l'occasion puisque Bakary était à Riyad, il a suivi un des classiques du football saoudien entre Nasr et El Ahly. Il était un peu partagé hein, parce qu'il y avait Edouard Mendy du côté d'El Ahly et Sadio Mané du côté de Nasr.
Non, je n'étais pas du tout partagé, j'étais à fond derrière Al-Nassr,
Sadio.
Vous le savez très bien, parce que j'ai mon poulain qui joue à Al-Nassr. Donc,
heureusement qu'Edouard Mendy ne t'entend pas.
Hein. Oui, mais Edou, il le sait bien, je lui ai envoyé un message juste avant le match. Mais juste pour vous dire que ça a été un match très plaisant, c'est vrai qu'à un moment donné, Nasr avait pris les choses en main. Malheureusement, il n'a pas pu concrétiser ses actions, notamment la tête de Sadio Mané qui a surgi à la 7e minute, mais qui a été sauvé de justesse par un défenseur central d'Al Ahly. Mais après, les visiteurs ont été beaucoup plus concrets. Ils ont été plus altruistes par le biais de Kessié, qui a vraiment fait trembler les filets contre toute attente. Il faut dire que cette belle équipe d'Al Ahly, je pense que va essayer de remonter encore la pente parce que dans ses rangs, on a un certain Riyad Mahrez, Kessié, oui, Firmino, mais aussi ils ont un renfort de taille en la personne de Tony qui vient de l'Angleterre. Mais ce match a été âprement disputé et à l'ultime seconde de la partie, Al-Nassr a arraché le nul par le biais de son latéral droit, Sultan, qui a tenté le tout pour le tout. Et finalement,
Il est parvenu à faire trembler les filets et sauver au moins un point pour l'équipe entraînée sur le terrain, au moins par Sadio Mané, surtout Cristiano Ronaldo. On va parler compétition continentale des clubs. Bon résultat de Djaraf, qui a réussi à amener un bon 0-0 en Coupe de la CAF du terrain du Racing d'Abidjan.
Oui, le Djaraf, aujourd'hui, on va dire que...
C'est l'unique représentant du Sénégal.
Le prince des coupes au Sénégal. Il faut dire que le Djaraf, aujourd'hui, a de l'expérience. Le Djaraf a commencé à comprendre qu'en Afrique, il faut d'abord savoir bien voyager en envoyant des éclaireurs. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé des émissaires qui étaient partis vraiment balayer le terrain avant l'arrivée de l'équipe. Aujourd'hui, le Djaraf est rentré avec le point du nul, ce qui veut dire que aujourd'hui les Djarafman ont toutes les cartes en main pour quand même pouvoir s'imposer devant ces Ivoiriens du Racing pour quand même franchir cette étape là. Mais ça ne sera pas une partie de plaisir parce que la Côte d'Ivoire ne nous réussit pas souvent tant en équipe nationale qu'en club parce qu'ils nous ont beaucoup éliminés, surtout en club ces dernières années. Mais je pense que les Sénégalais ont appris de leurs fautes, ont appris de leurs erreurs qu'ils ont avaient commises par le passé, et quand même je suis convaincu que cette fois-ci ce sera la bonne.
On verra si ce sera la bonne. Rendez-vous la semaine prochaine. En parlant des éliminatoires de la CAN, 4 points sur 6 pris par le Sénégal. Il y a eu la contre-performance face au Burkina Faso et après ce match un peu curieux au Burundi. Ou contre le Burundi.
Oui, il faut dire qu'effectivement c'était au Malawi contre le Burundi. Il faut dire effectivement que le Sénégal ne fait plus peur dans le continent. Et les Burundais nous l'ont dit en conférence de presse où nous avons bien pris part. Mais quand même, oui, la contre-performance contre le Burkina Faso a fait jaser et les supporters sont sortis de leur gonds pour vraiment manifester leur mécontentement. Et aussi, il y a un désamour qui est en train d'être né entre l'équipe nationale du Sénégal et ses supporters. Cela est, il faut dire que beaucoup d'observateurs pointent du doigt le système de jeu du sélectionneur Aliou Cissé qui a changé de fusil d'épaule avant même la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et pour eux, c'est ce qui a fait que le Sénégal n'a pas eu les résultats escomptés. Et cela est en train de nous poursuivre. Des joueurs, notamment Sadio Mané, ont fait une sortie publique pour dire que le problème, c'est le système. Aujourd'hui, Aliou Cissé, il faut le reconnaître, n'a pas les éléments qu'il faut pour animer le 3-5-2. Moi, en conférence de presse, je lui ai posé la question à savoir qu'aujourd'hui, est-ce qu'il pense qu'il a des profils des joueurs pouvant bien animer ce système de jeu? Il m'a dit oui, mais lui-même, dans sa réponse, il se perd. Ce qui veut dire quelque part qu'Aliou Cissé doit revenir à l'orthodoxie de son système qui voudrait qu'il joue en 4-3-2-1 ou en 4-3-3. C'est ce qui a valu la satisfaction de cette équipe nationale. C'est ce qui a permis à cette équipe nationale de terminer au firmament du football africain en 2022. Mais si tout d'un coup vous voulez changer de fusil d'épaule, ça va être compliqué. Surtout, je vais terminer par là, que Aliou Cissé a perdu son adjoint emblématique, son père spirituel à la personne de Régis Bogard, qui a quitté, qui officiellement a fait comprendre que sa santé ne lui permettait plus de continuer avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais dans les coulisses, on nous dit quand même qu'il ne s'entendait plus avec Aliou Cissé. Aujourd'hui, que lui, il est parti, son analyste vidéo, Bouchera, est parti, il est aujourd'hui en Arabie Saoudite, il gère la partie vidéo data de toute la fédération saoudienne de football. Donc ce qui veut dire Aliou Cissé est dans la tourmente, il est en train de se perdre.
Et justement, quelle est la plus-value d'un autre membre du staff qui s'appelle Hadji Diouf? Est-ce qu'il apporte quelque chose à ce staff ou c'est purement décoratif?
Non, je ne vais pas dire que c'est décoratif. Vous savez, Ella Diouf, c'est un homme très sympa, qui aime bien son pays. Il l'a démontré depuis la génération 2002. Il s'est battu pour rester dans l'ancrage de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, il est ambassadeur des différentes équipes nationales de football du Sénégal. Bon, donc, Ella Diouf, il n'a pas de poids. Il faut dire qu'il n'a pas de poids technico-tactique dans l'équipe, mais à côté d'Aliou Cissé, il y a quelqu'un qui s'appelle Pape Thiaw, qui est aujourd'hui premier entraîneur adjoint d'Aliou Cissé. Ils ont fait les beaux jours de l'équipe nationale du Sénégal en 2022. C'est lui qui a gagné le CHAN, mais il faut aussi dire que Pape Thiaw, il est inexpérimenté, comme Aliou Cissé l'a été en 2015 quand il prenait l'équipe nationale du Sénégal. Mais pour revenir à votre question, Ella Diouf n'a aucun poids dans le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal.
Un bon ambassadeur et un bon VRP du football sénégalais, mais il a quand même le respect des joueurs et il peut toujours, à travers son vécu, donner quelques conseils, être le grand frère de ces joueurs de l'équipe du Sénégal qui ont besoin d'un deuxième souffle. Quoi qu'il arrive, on suivra de très près les péripéties à l'occasion de la prochaine fenêtre FIFA. Ce sera au mois d'octobre prochain. En attendant, on va savourer ce bon match nul de Djaraf, le séjour de Bakary en Arabie Saoudite, et on lui donne rendez-vous très très bientôt. Merci Bakary Cissé. Il est 11h29, après une page de pub, on continuera notre tour d'Afrique.
علاش دابا الوقود وين بروتيكت بلس ديال وينكسو هو احسن ما كاين في السوق؟ باختصار، مع الوقود وين بروتيكت بلس الموتور كيبقى ديما نقي محمي واكثر فعاليه، كيستهلك قل وكيدوم اكثر. وهادشي كله بنفس ثمن الوقود العادي. داكشي علاش الوقود وين بروتكت بلس اللي كاين في ستاسيونات وينكسو مخير بزاف، لا مقارنه مع الوقود اللي كيكون زايد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا بلس. وداكشي وما تنساش راه ستاسيونات ديال وينكسو كاينين في المغرب كامل. وينكسو شركه مغربيه بالجوده والرخاء، تهلا فيك وفيا.
Merci de votre fidélité à Mars Africa. Après un détour par l'Afrique de l'Ouest, nous remontons au nord du continent, plus exactement à Tunis, avec Ahmed Adela. Bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Et on va commencer par ce bon résultat de Monastir contre le Mondial Club d'Alger, 1-0. Est-ce un résultat suffisant et rassurant pour Monastir qui a gagné vendredi dernier?
Oui, exactement. C'est un bon résultat, mais pas aussi rassurant que pour arracher la qualification. Maintenant, il faudra confirmer à Alger face aux champions de l'Algérie la saison passée. Comme l'a dit l'entraîneur, le nouvel entraîneur de l'ISMO venu de l'Autriche, le Tunisien, bien sûr, Mohamed Sahel, il avait expliqué que c'était un match entre le champion d'Algérie et le deuxième meilleur club en Tunisie. Maintenant, c'est une victoire peut-être arrachée, oui, mais il faudra vraiment confirmer face au MCA au match retour.
On va penser aussi que ce sera un peu plus facile pour l'Espérance de Tunis qui rencontre aujourd'hui le champion de Somalie. A priori, c'est une place quasiment assurée en phase de groupe.
Exactement, et c'est une première d'ailleurs, il faudra le signaler, sur les traces des clubs égyptiens, ils avaient l'habitude de faire ça, mais pas cette saison-là, pas pour les compétitions interclubs cette saison. C'est une première en Tunisie, le club sportif Sfaxien et l'Espérance de Tunis, ils ont trouvé des compromis avec leur adversaire pour disputer les deux matchs aller et retour à Tunis. Donc ça va épargner les deux clubs d'un long voyage, sachant que l'Espérance devait jouer face à des Qatars, les Somaliens qui n'ont pas un stade homologué, donc on savait pas où le match va se dérouler. Et pour le CSS en Coupe de la CAF face à Rikonzo de Boandi, donc c'était un très long voyage à prévoir. Maintenant, c'est une option qui a été prise. Maintenant, oui, le deux clubs, ils ont déjà disputé une première journée au championnat. Ils sont frais physiquement. Ils ont quelques minutes de jeu dans leurs jambes. Donc maintenant, c'est à eux de confirmer pour passer facilement à la phase de poule de la Coupe de la Confédération CAF et de la Ligue des Champions pour l'Espérance et pour le CSS.
Et la Tunisie qui pourrait faire un carton plein puisque deux clubs sont engagés également en Coupe de la CAF. Il y a tout d'abord le Stade Tunisien qui a battu l'USM Alger 1-0. Et puis, il y a le club sportif sfaxien qui va jouer deux matchs contre Rukinzo du Burundi, à chaque fois à domicile.
Oui, exactement. Donc, bon, comme c'est le cas pour l'USMO, c'est le même cas pour le Stade tunisien. C'est une victoire qui n'est pas rassurante, mais qui a vraiment donné beaucoup de confiance et des ailes à ce club, à ce petit club qui est petit en Afrique, parce que c'est pratiquement, s'ils arrivent à passer à la phase de poule, ça sera une première pour eux. Le Stade tunisien, un très grand club de Bordeaux, donc s'ils arrivent à passer, ça sera une première. 1-0 avec la manière, il faut pas l'oublier. C'est surtout ça qui a vraiment soulagé les supporters hier, qui a vraiment donné cette lueur d'espoir aux supporters, non seulement du Stade tunisien, mais aux supporters tunisiens, pour confirmer la domination des clubs tunisiens face à leur homologue algérien.
A priori, ça pourrait être un joli carton plein, comme l'a fait la sélection tunisienne qui a battu Al Jadida au Maroc, la Gambie, et qui, sous l'ère Fawzi El Benzarti, en tout cas Fawzi El Benzarti 4, réussit un 6-6.
Oui, exactement, mais c'est une victoire aussi qui a laissé beaucoup de séquelles, parce que il y a ceux qui n'ont pas, bon, le match, il était télévisé, il a été diffusé par beIN Sports, on le sait tous, et le micro, comme par hasard, Amine, on raconte une anecdote, le micro, il était tout près de Fawzi Benzarti, et voilà, on connaît tous. Oui, exactement. et voilà, donc, ça a laissé.
C'était pas beau à entendre.
Oui, c'est pas beau à entendre, mais c'est Fawzi. On peut pas le changer. On va pas changer un mec qui a 75 ans ou 76 ans. On peut pas lui obliger à faire des trucs qu'il pouvait pas faire ou qu'il avait l'habitude de faire. Donc, la victoire, les 6 points sont très importants. La qualification est quasiment assurée pour la CAN. Il n'y a pas vraiment la manière, mais il faut pas oublier que face à la Gambie, c'était notre première victoire face à une sélection, disons, qu'ils ne devaient pas nous poser de problème. Deux matchs, un amical en 2010, une défaite ici à Rades, à Tunis, et lors de la Coupe d'Afrique 2021, qui ils nous ont battus bien évidemment 1-0. Donc c'était notre première victoire, il fallait la jubiler, mais il y a aussi beaucoup de questions à poser, beaucoup d'interrogations là-dessus.
Des questions, des interrogations qu'il va falloir dissiper lors de la prochaine fenêtre FIFA au mois d'octobre prochain, avec la suite de ces éliminatoires de la CAN. Merci beaucoup Ahmed Adela, on se retrouve dimanche prochain Inch'Allah. On continue avec la Guinée et notre ami Chérif Aliou. Bonjour Chérif.
Bonjour Ami, bonjour à tout le monde.
Et c'est le grand jour pour l'équipe de Milo, qui doit disputer un match important de Champions League.
Absolument Amine, le Milo affrontera dans quelques heures seulement l'équipe du stade d'Abidjan pour le compte du second tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et il faut rappeler que le champion de Guinée avait éliminé au premier tour l'équipe du FC Mouadibou. Cette fois-ci, sur les yéyés de la Côte d'Ivoire, c'est très bien sur le chemin des Guinéens. Match allé du côté d'Abidjan, bien évidemment. Le milieu devra donc essayer de limiter la casse avant un match retour du côté de Bamako, parce que les clubs guinéens et la sélection continuent de recevoir les matchs en hors de la Guinée. Pour l'instant, en tout cas, le moral est à bloc du côté du club guinéen. L'entraîneur a dit qu'il a été mis en place pour que le Milo fasse une bonne prestation à Abidjan, ne serait-ce qu'un match nul, avant bien sûr la réception du stade d'Abidjan du côté du Mali. On sait que le stade est un club mythique de la Côte d'Ivoire. Ce sera donc pas du verre coupé pour le Milo FC de Cancan. On rappelle que le stade avait éliminé Tengut du Sénégal, l'équipe de Tengut qui est habituée également à cette compétition interclub de la CAF. Donc attention aux Guinéens qui sont avertis, parce qu'en face, il y a une bonne formation qui marche très bien maintenant depuis quelques années du côté de la Côte d'Ivoire.
Un bon résultat de Milo redonnerait un peu de sourire aux supporters ivoiriens, ou plutôt aux supporters guinéens, déçus par le comportement du Sili national, le Sili quart de finaliste de la dernière CAN, est quasiment dans les cordes lors de ses éliminatoires avec deux défaites.
Vous faites bien de le dire, le football guinéen en souffrance, c'est des mémoires. Notamment l'équipe du Sili qui vient de subir un nouveau revers après donc deux journées pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025. Le Sili a nouveau battu par la Tanzanie à domicile, même si ce match s'est joué à Yamoussoukro, donc en terre ivoirienne. Le Sili s'est incliné sur le score de 2-1. Malgré le but de Bayo qui avait donc ouvert le score pour le Sili de Guinée. Malheureusement, les Guinéens ont baissé pavillon et ils ont donc été punis par les Tanzaniens qui ont inscrit deux buts avec encore des erreurs individuelles impardonnables, notamment de la part de Mohamed Ali Camara, le défenseur de Young Boy, capitaine de Young Boy, et du portier Ibrahima Kone, pas exempt en tout cas de reproches sur l'ensemble des deux matchs. Et deux défaites qui pourraient coûter cher au sélectionneur Charlie Pakilé, dont on réclame désormais le limogeage à la tête du Sili de Guinée. On rappelle qu'il y a un comité qui gère donc pour l'instant l'équipe du Sili de Guinée, avec bien sûr Pakilé, Michel Duchillet, qui a été sélectionneur à deux fois du Sili de Guinée. Il y a aussi Kamfouri Lapibangoura, le directeur technique du Sili de Guinée, et Sylvain Kamara Abedi, le sélectionneur du Sili local. Donc un collège d'entraîneurs qui gère le Sili, qui malheureusement n'arrive pas à produire du jeu, qui peine vraiment à mettre en place un schéma de jeu. Et bien du coup, après donc deux sorties, le Sili pointe à la dernière place de son groupe avec 0 point au compteur. Voilà le Sili qui est en grosse difficulté. Le mois d'octobre sera donc un mois crucial pour le Sili, parce que le Sili recevra en double confrontation l'Éthiopie, bien évidemment. Match aller à Yamoussoukro, match retour en Éthiopie, bien évidemment. Et donc le Sili est en gros danger. Il va falloir donc très vite remettre la tête à l'endroit si on veut participer à la prochaine CAN qui arrive très rapidement.
Il faudrait peut-être revenir au Maroc, délocaliser les matchs à domicile au Maroc. Ça, les résultats étaient bien meilleurs. Si on est superstitieux, on devrait le faire en Guinée. Attention. C'est pas mon cher ami.
En tout cas, le Maroc n'a pas le bonheur, ces derniers temps. Parce qu'on a quand même réussi à faire des bons résultats de ce côté-là. On a même réussi à nous qualifier pour la CAN. Mais bon, les autorités ont décidé de jouer désormais en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est compliqué, parce que le seul Ivoirien ne porte pas chance au Sili de Guinée. On verra bien si on va commencer par le Milo, puisque le Milo je l'ai mis jouera contre l'équipe du stade. On verra bien sûr, il y aura ce déclic là et permettre vraiment au club et à la sélection guinéenne de démarrer avec des victoires en terre ivoirienne. Mmh. Mais pour l'instant, en tout cas, le Chili est dans le dur. Et voilà, on espère qu'avec le refus de Guirassy, le Chili va bien s'y porter parce que Guirassy est en pleine forme, on l'a vu, il y a contre Dortmund en championnat ce week-end même. Donc on verra bien si le Chili pourra en tout cas se relever. Mais on parle aussi, Amine, on parlait aussi des rumeurs en tout cas de l'arrivée de l'ex-entraîneur malien Eric Schell à la tête du Chili. Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais ça s'est murmuré comme quoi Eric Schell pourrait prendre les rênes du Chili de Guinée pour l'instant. Ce ne sont que des rumeurs. On verra bien en tout cas les semaines à venir, on verra bien si pas qu'il restera à la tête ou bien s'il y aura un nouveau sélectionneur qui prendra en tout cas la tête du Chili de Guinée pour la prochaine rencontre qui arrive très bientôt.
Merci infiniment, Chérif Alio. Nos salutations à nos amis de Conakry et de toute la Guinée, hein, et notamment de Milo qui a un match crucial aujourd'hui en Champions League. 11h40, destination le Cameroun, avec ce feuilleton tragicomique, bon, qui vire plus au ridicule. Ce bras de fer entre la Fédération Camerounaise de Football et le ministère de tutelle, avec au milieu le sélectionneur Marc Brice, William Tchango, c'est une affaire qui doit aller à son terme et qui, pour l'instant, nuit cruellement à l'image du football camerounais. Bonjour William.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Mars Africa. C'est un énorme plaisir pour moi d'être encore de la partie ce dimanche. Alors, parlant des matchs livrés par le Cameroun lors de cette période de FIFA, on va dire bilan mitigé pour les Lions indomptables de Marc Brice, parce que compte tenu des adversaires qu'on avait en face, on pourrait s'attendre à mieux en termes de résultats. On pourrait s'attendre à deux victoires dans ces rencontres, étant donné que on affrontait la Namibie et puis le Zimbabwe, qui sont respectivement 98e et 129e au dernier classement FIFA. Donc, logiquement, le Cameroun devrait s'imposer face à ces deux formations. Mais malheureusement, il n'y a eu que ce succès face à la Namibie à Garoua, au Cameroun. Et ce match nul terne contre le Zimbabwe à Kampala. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas occulter les conditions difficiles dans lesquelles les Lions se sont préparés pendant ce stage. On ne peut pas occulter toute l'ambiance délétère qu'il y avait autour de cette équipe durant ce dernier regroupement. Et ce qui fait que finalement, on peut se dire que ce résultat-là, il est plutôt positif parce que les conditions dans lesquelles les Lions se sont préparés n'étaient pas des conditions idoines, n'étaient pas des conditions optimales pour aller chercher des résultats positifs. Beaucoup en arrivent même à dire que qu'ils ont réalisé un exploit parce que lorsque vous allez à Kampala pour jouer le Zimbabwe, vous ne parvenez pas à vous entraîner, à faire la reconnaissance du stade avant d'aller affronter cet adversaire. C'est un élément important dans la préparation qui a été ainsi manqué. Et tout cela aussi faisant partie des conséquences de cette guerre, de leadership qu'il y a autour de la sélection camerounaise. Donc je pense qu'à un moment il faut arrêter et penser tout simplement aux intérêts de l'équipe, parce que pour le moment ce conflit interminable, il faut le dire, entre le ministère des Sports et l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de football, c'est très loin de rendre service à notre équipe, à cette équipe camerounaise. On est beaucoup plus là dans des conflits d'ego en quelque sorte, qui ne devraient en réalité pas prendre le pas sur l'intérêt de l'équipe. Donc c'est vraiment regrettable, surtout que après le stage de juin, il se passe comme si Aucune initiative n'a été prise entre-temps pour tenter de résorber ces conflits, ce problème. Tout le monde est resté campé dans sa position. Tout le monde est resté, a maintenu sa position dans le conflit, et personne ne veut perdre la face. Malheureusement, vous voyez les joueurs qui sont tiraillés entre ces deux institutions, et finalement, ils ne savent pas, savent véritablement pas de quel côté se retrouver. C'est très compliqué, et c'est pour ça qu'on félicite ces joueurs pour leur mental, parce que c'est des situations qui sont de nature à les démotiver complètement, mais on voit quand même qu'ils ont su passer outre cette situation pour aller quand même chercher un résultat positif. Et le coach Marc Brice aussi, à un moment, on peut dire qu'il est à féliciter parce qu'il réussit quand même à obtenir des résultats, même s'ils ne sont pas très flamboyants, mais les conditions dans lesquelles il évolue avec son équipe ne sont pas des conditions favorables à l'obtention de bons résultats. Mais on voit quand même que depuis qu'il est à la tête des Lions Indomptables, ça fait 4 rencontres déjà disputées, 2 victoires et 2 matchs nuls. Il aurait pu obtenir des défaites que personne ne se plaindrait véritablement, que personne ne remettrait complètement en cause ses qualités compte tenu de l'environnement dans lequel il évolue. Donc, si les autorités camerounaises, si les autorités de la Fédération camerounaise de football aiment vraiment cette équipe, je pense qu'il est temps de fumer le calumet de la paix. Il est temps de rechercher un compromis pour permettre à l'équipe de d'exercer pleinement, pour permettre aux joueurs de passer de beaux moments lorsqu'ils viennent en sélection, pour permettre aux joueurs de donner la pleine mesure de leur talent et de ne pas être perturbés par des éléments extra-sportifs qui ne leur permettent pas d'être à 100%. Malheureusement, le prochain stage arrive très vite. Prochain stage qui arrive au mois d'octobre prochain, et on espère entre-temps que tout le monde se sera assagi et qu'on laissera véritablement la possibilité à cette équipe d'avoir une préparation optimale. Donc, le football camerounais, je le dis et pour le décrier malheureusement depuis quelques années, est définitivement entré dans le registre des faits divers. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'il y ait des histoires un peu rocambolesques autour du football camerounais, et c'est très dommage. C'est dommage pour ce grand pays de football là que beaucoup envient, mais qui n'arrive toujours pas à capitaliser sur le potentiel qu'il a, et qui préfère s'enliser à chaque fois dans des conflits, qui ne profite qu'aux égos de certains individus, et certains individus qui, en quelque sorte, se considèrent
intouchables. Je pense. De tout et de la loi.
Des intérêts du football camerounais.
Voilà, merci beaucoup, William. J'espère que le calumet de l'AFP sera fumé lors de la prochaine date FIFA, et qu'il aura enfin un compromis, parce que l'image que donne le football camerounais et la sélection camerounaise est pathétique. Dernière escale, elle sera au Burkina Faso, au Pays des Hommes Intègres, avec Jean-Modeste Ouedraogo. Bonjour.
Bonjour
Jean-Modeste.
Thomas.
Alors, on va commencer par ce match de Champions League, avec cette belle surprise de l'équipe des Douanes, qui a battu les Algériens de Belouizdad sur le score d'un but à 0. Voilà peut-être une opportunité en or de figurer en phase de groupe de la Champions League.
Bien évidemment, parce que nous tous, nous étions un peu surpris quand même de cette performance de l'AS Douanes, parce que l'AS Douanes est parti quand même au Mali avec quelques handicaps, on va dire, puisque c'est une équipe qui n'a pas encore repris son championnat. Il y a pas mal de choses. Une équipe qui est en train de se reconstruire. Figurez-vous qu'il y a 15 joueurs qui ont été libérés en fin de saison. Donc, c'est pratiquement une nouvelle équipe qui est en train de se mettre en place. Par contre, l'entraîneur, lui, il est toujours là puisque c'est l'ancien sélectionneur des étalons, Kamou Malo, qui est sur le banc donc de l'Esdouane. Et nous étions vraiment surpris de cette belle victoire, même si elle est courte, donc de l'Esdouane face au CS Belouizdad. C'est une bonne nouvelle, une très bonne chose, une belle opportunité pour pouvoir intégrer les phases de groupe. Je rappelle que la dernière fois qu'une équipe burkinabé a atteint les phases de groupe, c'était pas en Ligue des Champions, mais à la Coupe CAF, c'était en 2021 avec Salitas, et malheureusement avec zéro victoire au compteur à la fin. Donc je pense que c'est une très belle opportunité, c'est une belle vitrine pour le football burkinabé. On espère que l'Esdouane va avoir lucidité-là et cette capacité-là à aller chercher un bon résultat du côté de l'Algérie et puis pouvoir se qualifier.
Et suivre les pas des étalons qui ont réussi à ramener un bon nul du Sénégal et surtout à gagner leur deuxième match en éliminatoire de la CAN. Ça commence à sentir bon pour la sélection du Burkina.
Oui, ça sent bon parce que on avait un peu de doute au regard aussi des querelles intestines qui tenaille un peu cette équipe-là, à l'image de trois joueurs qui avaient été écartés par le sélectionneur actuel. Après, il a rappelé le portier, Hervé Koffi Kwaku, et finalement, Issoufou Dayo, qui évolue à Berkane d'ailleurs, chez vous, et puis Bertrand Traoré, le capitaine, n'ont pas été appelés jusqu'à présent. Et ça pourrit un peu le vestiaire, et on avait cru que c'était vraiment compliqué pour eux. Bon, ils ont réussi à faire un bon résultat au Sénégal. Faire un nul à Dakar, c'est vraiment un exploit pour moi. Je pense que les étalons, dans une bonne dynamique, auraient pu aller chercher une victoire, mais dans cette ambiance-là, c'était un peu compliqué. Ils ont réussi à ramener quand même un nul et puis battre le Malawi. C'est une très bonne chose et ils sont premiers donc du groupe L devant le Sénégal. C'était impensable il y a quelques temps. Et je crois que c'est une très bonne chose pour Brahma Traoré qui enregistre du coup sa première victoire à la tête de cette sélection après 5 matchs. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il était à la recherche donc de cette victoire là pour pouvoir s'installer. Je pense qu'il a eu aussi une période il était là et il n'avait pas de victoire, mais personne aussi ne critiquait véritablement. Nous avions essayé de titiller un peu le monsieur pour l'amener à éviter les conflits inutiles, pour l'amener aussi à éviter d'aller à la conférence de presse et enflammer un peu ce conflit-là. Je pense qu'il a compris désormais. Et comme je peux vous le dire, le président de la fédération n'est plus là. Et il a été remplacé par un nouveau président de la fédération, qui est lui un colonel. Major à la retraite, qui prend donc cette fédération-là. Donc, ce sont de nouvelles personnes. Le ministre aussi est nouveau. Et je pense que le discours sera nouveau. Et les étalons vont commencer à galoper de nouveau.
Et les étalons qui pourraient, corroborer leur qualification avec une double confrontation largement à la portée face au Burundi. Ça pourrait sceller rapidement les choses pour les étalons et les pousser à mieux préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde où l'Égypte les domine dans le groupe où ils se trouvent. En tout cas, au niveau de la CAN, ils ont tenu tête au Sénégal, ils ont réussi une égalisation en toute fin de rencontre et ils ont confirmé lors de leur deuxième rencontre. Merci beaucoup Jean Modeste, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de cet exploit qui pourrait arriver, qui pourrait donner au Pays des Hommes Intègres un qualifié en phase de groupe de la Champions League, chose qui n'est jamais arrivée. À très très bientôt Jean Modeste. Il est 11h53, il reste quelques secondes, quelques minutes pour remercier toute l'équipe qui a veillé à l'émission, que ce soit nos amis un peu partout sur le continent ou notre réalisateur Sifdine. On va se quitter en musique et donner rendez-vous à nos auditeurs dans quelques minutes pour l'émission consacrée au